aujourd'hui à rencontre un grand théologien laïc, Olivier Clément. Olivier Clément, vous êtes théologien et celui qui lit vos livres y trouve autant un discours sur l'homme qu'un discours sur Dieu. Est-ce que cela est dû au fait que vous soyez justement un théologien laïc ?
Je ne crois pas du tout, mais je crois que ça tient au fait que j'essaie d'être chrétien et que le Christ est la pleine révélation de Dieu et la pleine révélation de l'homme. Le Christ est la révélation de Dieu dans un visage d'homme et qui nous permet désormais de déchiffrer tout visage d'homme dans le mystère, dans la lumière de Dieu. Je crois que le christianisme, ce n'est pas seulement Dieu, et ce n'est pas non plus seulement l'homme, c'est l'un et l'autre inséparablement dans la révélation du Christ. Et cette réunion du Christ, cette communion de Dieu et d'homme, comme disait saint Irénée de Lyon dès le IIe siècle, dit, qu'est-ce que le Christ ? C'est une communion de Dieu et d'homme. C'est le lieu même de l'Esprit Saint, du souffle de vie. C'est pourquoi on ne peut pas, quand on est chrétien, parler de Dieu sans parler de l'homme. Et dirais-je, inversement.
Bon, Olivier Clément, vous voulez parler de l'homme. Mais est-ce que ce discours-là n'est pas un discours, je pourrais dire, archaïque, un discours dépassé, depuis que certains philosophes ou certains ethnologues, je pense entre autres à Foucault, dont on parle tellement, ou à Claude Lévi-Strauss, depuis donc que ces penseurs ont plutôt proclamé la mort de l'homme.
Eh bien, ça me paraît un peu dépassé, justement. Cette espèce d'épistémo-structuralisme est un moment déjà dépassé de la pensée française, et je crois qu'il y a actuellement, au contraire, une redécouverte du sujet, et une redécouverte de l'homme, mais, dirais-je, de l'homme ouvert. Et peut-être la redécouverte est-elle venue par le biais d'une réflexion sur les droits de l'homme et sur la limitation du politique. Au fond, l'intelligentsia française a été dominée très longtemps par une pensée de type marxiste. Ensuite, par une pensée de type structuraliste, celle que vous venez d'évoquer. Et puis, il y a eu cette réflexion très profonde sur la limite éthique du politique. Et je dirais que l'homme qui a fait craquer les barrières, c'est Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, et puis d'autres, la Chevalessa, par exemple, ce sont des gens qui ont montré qu'à travers tous les conditionnements, l'homme peut être irréductible. Il y a des hommes qui ne capitulent pas. Alors ça pose la question du pourquoi. C'est pas le moment de dire que ça pense ou ça parle dans des sociétés qui sont faites uniquement pour que ça pense d'une certaine manière et ça parle d'une certaine manière. Il y a des hommes qui ne capitulent pas. Pourquoi ? Et je crois que toute une réflexion est née et est en train de se développer actuellement à partir de l'homme ouvert, à partir de l'homme irréductible. Bien entendu, il ne s'agit pas de nier les différents conditionnements qui ont été admirablement mis à jour par toute cette période structuraliste, mais tout cela est traversé par une certaine réalité qui n'est pas une substance, mais qui est quelqu'un, qui est le « je », qui est le « tu », qui est l'homme.
Pour vous, qu'est-ce que c'est que l'être humain ? Qu'est-ce que c'est que l'homme ?
Je dirais pour moi, l'homme c'est l'image de Dieu à travers la terre, l'image de Dieu assumant toute l'humanité et toute la réalité de la terre.
Mais vous dites image de Dieu, est-ce que certains de nos auditeurs, enfin certains de ceux qui nous écoutent et qui ne croient pas en Dieu, vous êtes théologien, donc oui. Vous êtes croyant également, appartenant à l'église orthodoxe, votre option, elle est celle d'un croyant. Comment ce discours, n'est-ce pas, cette référence à Dieu peut-elle être entendue pour, je dirais, la plupart de nos contemporains qui actuellement s'affirment pour le moins gnostiques, sinon incroyants ?
Je crois qu'à travers toute cette épaisseur d'existence, hein, qui est l'existence de l'homme, je ne dirais pas qu'il refuse Dieu. Je crois que nous sommes à une époque où, ce sont les basses eaux de l'idéologie. Les grandes idéologies totalitaires sont mortes. La critique de ces idéologies, à son tour, ennuie. Il y a une espèce de nihilisme accepté. un philosophe allemand a dit que nous sommes au temps du cynisme, mais un cynisme doux, n'est-ce pas? Un cynisme qui est un nihilisme résigné à travers une... Mais on essaie de vivre le moins mal possible, avec comme horizon un néant auquel on ne peut pas penser. Mais je crois que dans cette épaisseur d'existence, il y a un certain nombre de situations où on peut pressentir ce que j'appellerais l'énigme, ce que j'appellerais la question. Et la question, c'est l'homme lui-même. Que ce soit, par exemple, la beauté. Que ce soit la beauté. J'habite dans
un... Vous insistez beaucoup sur la beauté dans votre...
Je vous donne un exemple très simple, n'est-ce pas? J'habite un quartier de Paris qui est un quartier populaire, qui a été un des grands quartiers de l'insurrection de la Commune, n'est-ce pas, en 1871. Il s'appelle Ménilmontant. Alors, il y a des petites maisons, et puis il y a des grandes, grandes maisons qu'on fait maintenant. Et au pied d'une grande, grande maison, il y en est resté une petite, je ne sais pas pourquoi, elle a été épargnée. Et cette petite maison a un jardin, et dans ce jardin, il y a un rosier. Et à l'automne, il y a des roses. Et quand je vais prendre le métro, eh bien, je fais toujours un tout petit détour pour voir le rosier. Et chaque fois, je m'étonne. Pourquoi cette profusion gratuite? Pourquoi cette profusion? Alors que si le rosier était une mécanique, n'est-ce pas, il suffirait d'une rose pour assurer la reproduction. Et bien cette profusion, et cela me saisit, cela saisit tout mon être. Ce n'est pas mon intelligence qui est saisie. Ce n'est pas seulement non plus ma sensibilité, c'est tout mon être. C'est le mystère de la beauté. Je crois que tout homme ressent cela. Il y a aussi le mystère de l'amour. Après tout, nous voyons actuellement des jeunes gens qui redécouvrent le mystère de l'amour. Pas seulement la sexualité. La sexualité, au fond, je dirais à la limite, ça n'existe pas. C'est une quête de l'autre. Et à travers la sexualité, il y a la quête de l'autre. Donc il y a la quête de ce que j'appellerais, au-delà de la sexualité, l'amour. D'amour, un peu de tendresse. Là aussi, il y a une énigme. Quand j'arrive à avoir la grâce de pressentir quelqu'un d'autre, il y a une énigme. Il y a une énigme. Qu'est-ce qu'un visage? Qu'est-ce qu'un autre? Donc vous voyez la beauté. Donc vous voyez l'amour. Et puis la mort aussi. Pourquoi l'homme est-il le seul animal qui sache qu'il mourra? Les autres animaux meurent sans le savoir. On a fait toutes sortes d'expériences en Afrique sur des singes qu'on a étudiés de très près. On voit très bien que la guenon qui nourrit son petit singe, s'il meurt, elle continue de le traîner avec elle, de chercher à l'allaiter, puis elle finit par l'abandonner parce qu'il pourrit littéralement. L'homme, lui, sait qu'il mourra. Pourquoi? Pourquoi sait-il qu'il mourra s'il n'a pas le pressentiment d'autre chose? S'il n'a pas le pressentiment de l'éternité? Pourquoi peut-on dire mort si on n'a pas le pressentiment de la non-mort? Pourquoi peut-on dire amour si on n'a pas le pressentiment d'autre chose que la sexualité? Pourquoi peut-on dire beauté si on n'a pas le pressentiment d'autre chose qu'une simple mécanique où les causes et les effets s'engrènent, n'est-ce pas, de la manière la plus banale?
Mais là, et là, vous concluez Dieu.
Non, je ne conclue rien. Pour l'homme d'aujourd'hui, je lui dis, il y a question. Je lui dis, il y a question. Je lui dis, il doit y avoir approfondissement dans l'existence. Nous sommes presque tous des somnambules. Nous sommes toujours en train de vivre, le regard rivé sur notre montre, sur notre agenda, il y a une chose, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Et si rarement nous nous arrêtons, si rarement nous sommes présents à notre présent. Et je crois qu'il est extrêmement important pour l'homme simplement de s'approfondir dans l'existence jusqu'à un certain étonnement, un certain émerveillement et aussi une certaine angoisse fondamentale. L'angoisse et l'émerveillement me paraissent être les deux pôles. Et alors, à partir de là, la question, oui, l'énigme, bien sûr.
À condition qu'angoisse et émerveillement soient liés, car très souvent, on s'émerveille, ou enfin, on tripe, comme on dit, on s'explose, n'est-ce pas, d'un côté, ou d'un côté, et en oubliant l'angoisse, l'inquiétude, oui. Ou bien au contraire, on plonge dans l'inquiétude, n'est-ce pas, en évacuant toute admiration.
Et très souvent, l'un et l'autre, pourtant, sont liés. C'est pas, je pensais à cela, c'est quand j'étais au Japon, c'est pas, il y a quelques temps, et j'étais au Japon à l'automne, c'est d'ailleurs une saison qui est assez semblable à celle que l'on connaît, je crois, au Canada, quand les érables deviennent rouges, quand la forêt prend feu, littéralement. Et c'est ce que les Japonais appellent l'automne de brocart. Et à la fois, il y a chez eux un émerveillement et une extraordinaire mélancolie. Comme c'est beau, n'est-ce pas? Le monde va être transfiguré. Et pourtant, en même temps, tout va mourir. Les deux viennent ensemble. Et nous avons le sentiment que si nous pouvions arrêter l'automne de brocart, n'est-ce pas? Si tout pouvait exploser dans la lumière. Mais finalement, vous comprenez, le christianisme, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement ce creusement qui peut se faire dans l'homme. C'est une révélation. Il y a révélation. Et cela, il faut avoir le courage d'en parler. Je veux dire qu'il n'y a pas seulement ce monde dans lequel nous tâtonnons et où tout finalement est ambivalent, où l'amour ne va pas sans la haine, où la bonté ne va pas sans la faiblesse. Enfin, tout est toujours ambivalent. Les psychologues le savent bien. Ils nous aident à vivre avec cette ambivalence. Mais il peut y avoir des moments où un déchirement se produit et quelque chose ou quelqu'un vient vers nous. Et ça, c'est la révélation.
Oui, et quelqu'un qui vient vers nous, non pas pour nous confirmer dans nos certitudes ou pour creuser nos questions, mais quelqu'un qui bien souvent nous contredit, quelqu'un qui cette révélation n'est pas une super philosophie, elle reste continuellement quand même parfois provocation pour nous.
Et elle est une rencontre, je crois.
Elle est une rencontre, sans aucun doute.
Elle est une rencontre.
Mais de quelqu'un qui est tout à fait autre. Donc qui nous bouleverse sans arrêt.
Et qui nous pose tant de problèmes. Je me souviens les premières fois où, quand j'étais adolescent, il m'arrivait de lire l'Évangile, combien j'étais à la fois attiré et choqué par l'Évangile. Le sens du mystère, oui, pourquoi pas, n'est-ce pas? Mais il y a tant de religions, il y a tant de mythes, il y a tant de grands inspirés. Et puis voilà cet homme qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'étais constamment heurté par cette affirmation. Il a fallu beaucoup de temps.
Oui, et si vous permettez, récemment, je lisais une page de l'Évangile qui encore était extrêmement troublante. Pensons à cette parabole, c'est celle-là que je disais. La parabole de l'intendant, du gérant malhonnête, n'est-ce pas? Et le maître fait l'éloge, enfin c'est ce que nous dit le texte de Saint-Luc, le maître fait l'éloge du gérant malhonnête. C'est difficile à soutenir une telle parole dans le monde d'aujourd'hui. Elle est très provocante. Alors cette révélation, et c'est à ça que je voulais... c'est là que je voudrais vous interroger. Cette révélation est peut-être un discours sur l'homme, mais elle n'est pas la consécration de nos philosophies.
Bien entendu. Il s'agit de tout autre chose. Il y a là un moment de rupture, et il faut qu'il y ait ce moment de rupture. Alors si cette rupture a lieu après, par rapport à cette expérience spirituelle, nous pouvons recommencer de penser, mais nous pensons autrement. Et alors je crois de ce point de vue que la pensée d'un chrétien n'est pas une philosophie en série avec les philosophies. Je crois qu'il y a là quelque chose qui doit être tout autre. Il faut arriver à penser à partir de cette rencontre, justement, et à l'intérieur de cette rencontre.
Donc, quand vous vous intéressez à l'homme, vous vous y intéressez du point de vue de Dieu, et donc d'un point de vue bouleversant, d'un point de vue choquant, et qui vous remet continuellement en question vous-même.
C'est ça. Je dirais, je m'y intéresse d'un point de vue bouleversant, et à l'intérieur de ce bouleversement, je pressens Dieu. Où là, se fait... Le bouleversement est lié à la révélation. On ne connaît d'ailleurs quelqu'un d'autre que par une révélation. Nous pouvons accumuler sur quelqu'un toutes sortes de renseignements, nous pouvons accumuler toutes sortes de fiches, qu'elles soient biologiques, psychologiques, pédagogiques et même policières, n'est-ce pas? Mais finalement, il faut le saut de la confiance. Kierkegaard, à propos de la foi, disait qu'il faut faire le saut de la foi, mais c'est vrai dans la rencontre de l'autre. C'est une grâce de découvrir que l'autre existe vraiment, qu'il existe aussi intérieurement que moi-même. C'est donné à un homme pour quelques autres êtres humains. Peut-être seuls les saints arrivent justement à pouvoir rencontrer chacun en lui disant « ma joie ».
C'est cette rencontre que vous racontez dans un passage d'un de vos récents ouvrages, le visionnaire de ce moine, de cet ascète qui découvre tout à coup le corps de la femme. Et qui, après être fondu en pleurs, passe immédiatement à l'état de ressuscité.
Oui, c'est une histoire, c'est pour moi qui le raconte, n'est-ce pas? Je ne fais que citer un vieil ascète qui est très lu par les moines, en Orient, mais aussi en Occident, et qui s'appelle Saint-Jean Climac, c'est-à-dire Saint-Jean de l'Échelle. Il a écrit un livre où il y a des degrés qui permettent, dit-il, de monter vers Dieu, enfin, comme l'échelle de Jacob. Et alors, il parle d'un ascète qui, ayant vu, un peu par hasard, n'est-ce pas, la beauté d'une femme, rendit grâce à Dieu. Au lieu d'être pénétré d'avidité, il rendit grâce à Dieu d'avoir créé pareille beauté. Et Saint Jean Climac conclut, cet homme était déjà ressuscité avant l'universelle résurrection.
Voilà. Ceci m'amène justement à vous poser la question. Enfin, nous parlons de l'être humain. L'être humain n'est quand même pas un être abstrait. C'est vous, c'est moi. Ce sont des hommes et des femmes, donc de chair, de sang. Comment vous réagissez, vous, comme théologien laïque, orthodoxe, Vivant quand même dans le monde occidental, vous ne vivez pas au-delà du rideau de fer.
Le monde occidental est partout maintenant.
Oui, bon, mais disons qu'il a peut-être plus ou moins pénétré. Regardons par exemple la réticence dans les milieux arabes, par exemple, à une certaine occidentalisation actuellement. Mais alors, comment vous voyez tout à coup, du point de vue de théologien orthodoxe, comment vous voyez cette montée du féminisme et ces revendications de la femme non seulement contre l'Église et à l'intérieur de l'Église, contre le discours chrétien et à l'intérieur de ce discours chrétien?
Mais je crois que ce qui a posé la femme comme une personne avec une valeur infinie et donc égale à l'homme, n'est-ce pas, égale à l'infini à l'homme, c'est le christianisme. Je crois que véritablement, n'est-ce pas, c'est le christianisme qui a découvert, qui a affirmé que la femme était pleinement une personne. Alors que ceci ait été mal vécu à tel ou tel moment dans l'Église, qui s'est trouvée liée à des sociétés patriarcales, et que cette espèce de contradiction entre ce qui était la source profonde et puis le lieu où cette source normalement devrait couler ait entraîné des protestations contre ce qu'on a appelé la morale judéo-chrétienne, bon, c'est relativement compréhensible, mais je pense que cet avènement de la femme est une des choses fondamentales de notre époque. Je crois que c'est une des choses fondamentales, à condition que la femme reste la femme.
Mais qu'est-ce que ça veut dire que la femme reste la femme? Disons que, quand même, vous n'êtes pas un célibataire, vous êtes marié, vous êtes père de famille, vous avez des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous que la femme reste la femme? Ça veut dire qu'on la cantonne, qu'on l'empêche d'évoluer, de prendre la place qu'elle doit prendre dans la société?
Pas du tout, pas du tout. Et je suis même extrêmement réticent quand on cherche à définir la différence. Différence, il y a. Je le sens, je le sais, mais il est très difficile de la conceptualiser. Parce que quand on la conceptualise, ça a été fait essentiellement par les hommes, surtout dans un certain romantisme, n'est-ce pas, et la différence infériorise, finalement. Donc je crois qu'il faut permettre à la femme de donner toute sa mesure dans tous les domaines. Mais en même temps, il est très important qu'elle préserve sa féminité. Je suis extrêmement frappé par une de mes amies, qui est une jeune soviétique qui a été exilée d'Union soviétique il y a quelques années, qui s'appelle Tatiana Garitcheva. Elle est née dans un milieu totalement athée là-bas. Elle a grandi, elle n'était pas baptisée, elle a grandi dans l'athéisme. Elle a été membre des jeunesses communistes, elle a joué un rôle important à ce titre. Et puis elle a découvert la philosophie occidentale, elle a découvert une quête de la vérité. Et puis à travers l'hindouisme et le yoga, elle a découvert une certaine dimension spirituelle. Et puis, son maître en hindouisme lui a donné comme mantra, comme parole à méditer, il a dit quelque chose qui est très banal chez les chrétiens, c'était le Notre Père. Et en priant le Notre Père, elle a eu une espèce de révélation, justement, d'envahissement par la lumière. Et elle avait eu, en tant que femme, une affirmation féministe très forte, elle avait mené une vie extrêmement chaotique. Et elle m'a dit, elle a créé, à ce moment-là, là-bas, un mouvement féministe. Sous le patronage de la Mère de Dieu, le mouvement Maria. Un mouvement à la fois pour une défense de la femme dans le domaine social, dans le domaine juridique, dont c'est un pays où pratiquement tout repose sur l'épaule de la femme, mais en même temps, m'a-t-elle dit, pour que la femme retrouve sa pleine féminité en contemplant l'image de la Mère de Dieu.
Mais ceci, disons-le carrément, peut être très choquant pour des auditeurs canadiens. Certains sont ravis, mais je dois vous dire...
Les textes de Tatiana Garitcheva ont été publiés en français aux éditions des femmes, qui sont des éditions très violemment féministes. Et elles ont parfaitement compris qu'on pouvait tenir ce langage, ce qui est quand même assez étonnant.
Je dois vous dire qu'ici, certains écrivains même ont pu écrire des pièces de théâtre où ils remettent en question précisément cette image d'une femme qui est à la fois vierge, mère, martyr, etc. Et voyant là l'espèce de nœud de contradiction dans lequel le discours chrétien enferme la femme.
Pourquoi l'enfermerait-il? Il fallait bien qu'à un moment, n'est-ce pas, la chaîne des générations pour la mort soit rompue, pour qu'apparaisse un vivant totalement vivant, qui entre uniquement par amour et volontairement dans la mort pour y ouvrir des chemins de résurrection. Nous savons très bien que quand un homme et une femme permettent la naissance d'un enfant, cet enfant mourra. Et nous avons l'impression que la mort, c'est le néant. Donc il fallait cette intervention de l'ailleurs qui brise cette chaîne, cet enchaînement des naissances pour la mort, pour que le Christ apparaisse, qui devait entrer dans la mort, mais pour ressusciter. et nous ouvrir des voies de résurrection. Et il n'y a là rien qui aille contre l'amour humain. D'ailleurs, elle est vierge, mais elle est féconde, n'est-ce pas? Il y a là quelque chose qui est absolument unique. C'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Et en même temps, tout être humain contemplant l'image de la Mère de Dieu peut sentir s'éveiller en lui, je dirais, le meilleur de la profondeur de son être. Cette capacité, justement, d'accueillir, cette capacité de, je dirais, d'enfanter le mystère dans les âmes les plus désespérées.
Vous êtes théologien orthodoxe, mais né, non pas dans l'orthodoxie, vous êtes passé à l'orthodoxie.
Mais je suis passé de rien. Je suis né dans un milieu totalement déchristianisé, je n'ai pas été baptisé quand j'étais petit. Mmh. J'ai vécu dans l'athéisme pendant une trentaine d'années, j'ai cherché à l'explorer dans toutes ses dimensions, que ce soit le marxisme ou Freud ou Marx. Et c'est après toute cette exploration, et puis même l'athéisme mystique, et puis aussi l'Inde, n'est-ce pas? Et c'est après tout cela que j'ai rencontré le christianisme, et que, à la suite de toutes sortes de circonstances, n'ayant d'ailleurs aucun attachement d'enfance à une confession chrétienne, je suis entré dans l'église orthodoxe.
Oui, mais la question que je vais vous poser, la suivante, c'est que nous nous sommes rencontrés il y a déjà plusieurs années.
C'est exact.
Et je me dis, mais quel est votre cheminement depuis ces 10 ans? Vous avez un cheminement personnel, vous voyez aussi un certain cheminement de cette église romaine, catholique, un cheminement également de l'église orthodoxe. Comment vous voyez tout à coup, après 10 ans,
cette
évolution?
Dans mon travail personnel, ce sur quoi j'ai le plus travaillé, c'est sur cet énorme patrimoine de l'ascèse et de la mystique et orthodoxe qui finalement est commune, n'est-ce pas, dirais-je, à tous les moines d'Orient et d'Occident. Il me semble qu'il y a là une connaissance extrêmement profonde de l'homme, extrêmement profonde des chemins qui peuvent permettre à l'homme de s'unifier, de se dépasser, mais souvent écrit dans un langage qui n'est plus le nôtre. Et mon travail, c'est là aussi un petit peu un travail de traducteur. Il s'agit d'actualiser tout cela. Ça a été une très grande partie de mes préoccupations. Ce qui m'a beaucoup préoccupé aussi, c'est la rencontre des religions, qui, je crois, est devenue aujourd'hui inévitable. Alors, la rencontre du christianisme avec ces deux grands hémisphères spirituels de l'humanité, soit celui qui est issu de l'Inde et qui pressent le divin à travers toutes choses, mais c'est un divin impersonnel, où finalement l'homme se dissout comme une poupée de sel dans l'océan, et d'autre part, l'hémisphère sémitique, n'est-ce pas, l'islam, le judaïsme, où Dieu est personnel, imminent, et où il pose l'homme comme un tu, mais où entre eux, il n'y a pas, d'interpénétration, de communion possible. Et je pense que là, le christianisme a un rôle absolument unique à jouer. Cela m'a beaucoup intéressé. Voilà, si vous voulez, un petit peu pour mon travail personnel. En ce qui concerne l'évolution de l'Église catholique, j'ai eu l'impression, il y a une dizaine d'années, n'est-ce pas, nous nous sommes rencontrés, c'était à Paris.
Ouais, 75, oui.
Voilà. Alors, j'ai eu l'impression qu'à ce moment-là, il y avait une espèce de passage à vide de la théologie catholique, mais qui était une expérience de la liberté, une volonté d'écouter les maîtres du soupçon, d'écouter, de comprendre toutes les recherches des sciences humaines. Et j'ai l'impression qu'à travers tout cela, s'est fait une espèce de décapage. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on voit ressurgir dans un certain nombre de milieux catholiques, ce sont la recherche du fondamental. Il y a une sorte de quête du fondamental. Et ce qui me paraît très frappant, en tout cas en France, c'est le fourmillement de petites communautés. Ça n'arrive pas encore à se manifester au niveau d'une élaboration culturelle. Je crois que la destruction dans le domaine culturel a été si grande, le nihilisme a été si total, qu'il faut vraiment s'enfouir dans l'essentiel, s'enfouir dans la prière, dans le secret. Mais ça germe, et ça germe un peu de tous côtés dans le monde catholique. Et ce qui me passionne beaucoup, d'ailleurs, c'est une espèce de rencontre, alors, d'homme à homme qui se fait entre l'Orient et l'Occident chrétien, dans un pays comme la France.
Mais justement, est-ce que ce n'est pas un peu désespérant de voir qu'il peut y avoir une telle proximité entre les individus, entre les êtres humains, femmes, hommes, etc., de quelque religion qu'ils soient, et de voir que les églises, elles, semblent presque se scléroser dans un dialogue institutionnel?
Écoutez, j'ai été désespéré un moment. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'espoir à l'époque où se faisait la rencontre entre le patriarche Athénagoras Ier et le pape Paul VI. Et maintenant, je sens, alors, vous m'avez interrogé aussi sur l'évolution de l'orthodoxie, il y a des choses très positives, en particulier il y a une renaissance de la foi assez extraordinaire parmi les jeunes intellectuels russes. Ça, c'est le grand acquis des 15 dernières années, incontestablement. Véritablement, d'abord, des gens sont venus à la fois par des chemins tortueux, un peu gnostiques, un peu comme Tarkovski, par exemple. Mais maintenant, des jeunes deviennent chrétiens d'une manière extrêmement simple, comme une espèce d'évidence. C'est vraiment le sang, c'est vraiment la lumière. Et ils vont à l'église, ils ne sont jamais allés, ils sont pas baptisés. Ils la découvrent, elle est archaïque sans doute, mais c'est un lieu de paix, c'est un lieu de beauté, c'est un lieu de lumière. Ça c'est très très extraordinaire. Mais en même temps, il y a d'autres secteurs du monde orthodoxe où se fait un petit peu ce que nous constatons dans l'islam. Ça ne prend pas le caractère tragique et le caractère de violence politique que nous trouvons dans l'islam, mais qui est une sorte de revanche des Orients par rapport à l'Occident. Alors il y a des crispations et j'avoue que ça m'a un moment beaucoup désespéré. Mais maintenant je me dis que toutes ces choses ne sont pas à l'échelle d'une vie humaine et je crois qu'en profondeur le rapprochement continue, le rapprochement se fait. Il faut le servir et moi il faut que je fasse le peu que je peux faire là où je suis. Sans nourrir trop d'espoir, mais sans jamais désespérer.
Mais vous signalez vous-même dans un de vos récents volumes, je le cite encore, Les Visionnaires, qu'il est évident que les chrétiens deviennent maintenant minoritaires et que ça change aussi leurs conditions. Parce qu'on n'a pas l'impression à ce moment-là que les chrétiens, parce que minoritaires, cherchent à se faire pardonner d'être chrétiens, alors qu'il y a quelque temps, ils voulaient imposer à tous une conversion à laquelle ils pouvaient parfois répugner.
Ça c'est fini. Je crois qu'il y a eu l'étape où les chrétiens se sentaient majoritaires et voulaient imposer la conversion. Il y a eu l'étape où ils ont eu honte d'être chrétiens, ça c'est vrai. Mais je crois que ça commence à passer. Je crois que maintenant il faut qu'ils aient la simplicité d'être ce qu'ils sont. Et que, étant donné la conjoncture culturelle, je dirais tout est ouvert. Tout est ouvert. Actuellement, il me semble que dans la situation française, la situation occidentale en général, on peut chercher, on peut réfléchir, on peut travailler librement sans se faire marginaliser, même quand on est chrétien. Donc il n'appartient qu'aux chrétiens de créer. Ce qui me fait problème, c'est que souvent les chrétiens pleurnichent, n'est-ce pas ? Il y a un côté pleurnichard, n'est-ce pas, des chrétiens aujourd'hui, mais il ne faut pas pleurnicher.
Comme les princes russes exilés.
Et un peu de ça, n'est-ce pas ? Un peu de ça, ils regrettent. Bon, comme c'était bien autrefois, mais non, il faut aller de l'avant et il faut créer. Ils sont délivrés du pouvoir, c'est merveilleux cela, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus évangélique. Ils sont délivrés du pouvoir et ils ont la possibilité de faire entendre une parole prophétique. Et après tout, l'Église est le cœur du monde, même si le monde ignore son cœur.
Une parole qui n'est pas une idéologie, une parole qui n'est pas une philosophie, mais une parole qui nous parle de foi.
Mais bien sûr. Mais ça devrait être ça, la théologie, entre nous soit dit. Une théologie qui est une spéculation, quel intérêt ? La vraie théologie, c'est fait pour être chantée. Ça doit devenir liturgie, ça doit devenir louange du peuple. La vraie théologie devrait avoir un aspect poétique. Il ne faut pas que ce soit une pure spéculation. Je crois que ça a été quelque chose de très ennuyeux, cette espèce de compromis entre la théologie et la philosophie qui s'est conclue au XIVe, XVe siècle, n'est-ce pas, en Occident.
Olivier Clément, je vous remercie.